Europe 1 vous présente Parole de l'ombre 2.
Retrouvez la grande histoire des Français sous l'occupation.
Affiches, chansons, tracts, poèmes, journaux clandestins sont reproduits à l'identique.
Tournez les pages et dépliez ces archives bouleversantes pour plonger dans l'histoire.
Parole de l'ombre 2.
En librairie pour 34,80€ seulement.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est l'un des auteurs français les plus connus que Franck Ferrand nous propose de redécouvrir aujourd'hui sur Europe 1. Tous les enfants apprennent ses fables à l'école. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Jean de La Fontaine n'est pas seulement le plus connu des écrivains français, il est aussi, et paradoxalement, le plus méconnu des génies du grand siècle. « Je suis homme de vers, le ciel m'a fait auteur », s'excusait celui qui fut aussi un joueur, un pénitent, un libertin, oh oui, vous allez voir, et puis un repenti tardif.
Alors pour évoquer avec vous les aspects les moins connus de la vie et de l'œuvre du fabuliste, vous avez convié le comédien Jean-Claude Drouot.
Oui, Jean-Claude Drouot qui œuvre activement à maintenir Jean de La Fontaine vivant.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Tout à l'heure, nous irons faire un tour en Champagne, du côté de Château-Thierry, à une centaine de kilomètres au nord-est de Paris. Château-Thierry, où existe toujours la belle maison bien carrée, calme, bucolique, dans laquelle est né le petit Jean de La Fontaine. C'était le 7 ou le 8 juillet 1621. Vous voyez qu'on est à l'époque de l'ascension de Richelieu sous le tout jeune Louis XIII. Le père de Jean était maître des eaux et forêts, autant dire un surveillant, un contrôleur forestier dont la juridiction était assez étendue. Il avait épousé la fille d'un juge de Coulommiers, on disait à l'époque un bailli. Elle s'appelle Françoise Pidoux, cette mère de La Fontaine. Je la cite parce qu'elle est originaire de Poitiers, alors ça me touche évidemment. Elle avait quand même 12 ans de plus que son mari. Elle avait eu du reste une fille d'un premier mariage, donc la demi-sœur de Jean, auquel allait aussi naître un petit frère 2 ans plus tard. Alors l'enfance de ce Jean de La Fontaine se passe donc assez tranquillement en Champagne, notamment au collège de Reims où il se révèle un bon garçon, fort sage et fort modeste. C'est là qu'il se lie d'amitié avec celui qui va rester son meilleur ami jusqu'à la fin de ses jours, avec François de Maucroix, qui est un petit peu plus âgé que lui et qui sera plus tard chanoine de Reims, mais surtout poète. En fin de cursus, les parents de La Fontaine songent à faire de lui un séminariste. D'ailleurs, il le place chez les oratoriens. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jean n'est pas fait pour la vie religieuse. Il aura, du reste, un rapport très spécial à la religion, et ça aussi, nous allons y revenir. Ça fait beaucoup de choses à traiter dans le temps qui nous est imparti, mais vous verrez, on va y arriver. En fait, le jeune La Fontaine, en dehors des femmes, car c'est un coureur de jupons, ne s'intéresse guère qu'aux lettres, quand je dis aux lettres avec un grand L. Il passe des nuits à apprendre par cœur des vers de Malherbe, le fondateur de notre belle langue, et le jour, il va déclamer ses vers dans les bois. On le voit sans cesse dans les champs et les forêts où le conduit sa charge, s'absorbant dans des volumes de Platon qu'il révère, d'Ésope, dont les fables sont publiées en 1629, de Plutarque, parfois aussi d'auteurs moins antique, il lit volontiers Boccace, l'Arioste, etc. J'imagine bien sa famille se morfondant et ne sachant que faire de la nature assez indolente de La Fontaine. Sa mère meurt pendant l'hiver 1644. Comprenez bien d'entrée de jeu que Jean de La Fontaine fait partie de ces personnes qui ont peu d'ambition, qui mettent la vie et ses plaisirs au-dessus de leur carrière et des devoirs qui vont avec. Son père est là, néanmoins, qui veille au grain, lui-même est juriste, il convainc Jean d'étudier le droit, et c'est, en tout cas dans l'idée de son père, il se dit qu'après tout il pourrait embrasser la même carrière que lui et s'établir dans les eaux et forêts. C'est pour faire ce droit que La Fontaine vient à Paris, où il retrouve son vieux copain Maucroix. C'est là que tous deux font la connaissance de toute une bande de joyeux écrivains qui ont créé une sorte de club qui s'appelle la Table Ronde. Quand il atteint les 25 ans, le père de La Fontaine le presse de se marier. Alors il va épouser une gamine, la petite Marie Éricard, qui n'a même pas 15 ans. et qui présente surtout l'avantage d'être la nièce du procureur général au Parlement de Paris. Jean va pouvoir s'acheter en 1652 une charge de maître des eaux et forêts, comme papa. L'année suivante, sa jeune épouse lui donne un fils, Charles, comme grand-papa, qui s'appelait Charles de La Fontaine. L'année suivante, l'enfant donc va être élevé, ça il faut le dire, hein, parce que l'enfant va être élevé par son parrain, et le parrain, c'est François de Maucroix. On ne peut pas dire que La Fontaine s'intéresse beaucoup aux enfants, il ne s'intéresse quasiment pas à son fils. C'est un comble pour un fabuliste dont les œuvres seront inculquées des siècles durant à tant de générations d'enfants.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
La vie selon La Fontaine, c'est ce que nous compte aujourd'hui Franck Ferrand sur Europe 1.
Oui, vous commencez, Julia, à cerner notre bonhomme. Ce n'est pas moi qui l'appelle ainsi, hein. Ce sont ses propres amis. La Fontaine est d'abord un grand rêveur, ensuite un grand lecteur, accessoirement un grand faiseur de vers. Volupté, volupté qui fut jadis maîtresse du plus bel esprit de la Grèce, ne me dédaigne pas, viens-t'en loger chez moi, écrit-il. Tu n'y seras pas sans emploi. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique. Il s'intéresse plus aux filles de Château-Thierry, disons-le, qu'à sa femme, et moins à leur enfant qu'à ce qui, à ses yeux, fait figure de premier enfant véritable, son premier ouvrage publié en 1654, c'est L'Eunuque. Il s'agit d'une comédie en cinq actes, qui n'est pas signée, mais à l'époque, les comédies sont rarement signées. Elle est adaptée du grand poète comique latin Terence. Je vous ai dit que Jean lisait beaucoup les anciens et s'en inspirait. Alors, vous avez compris qu'il est très attiré par la poésie, et dès lors, Jean de La Fontaine n'a qu'une idée en tête, quitter sa Champagne pour regagner Paris. Or, en 1658, son père vient à mourir à son tour, et la succession, qui va être difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, mais néanmoins, cette succession va donner au poète les moyens de clarifier les choses. Les deux époux acceptent une séparation de biens, ils ne sont pas brouillés pour autant. Du reste, c'est un oncle de Marie, un dénommé Jeannard, qui le pilote, si j'ose dire, dans le Paris de l'époque, et le présente à l'homme fort du régime en cette fin de règne de Mazarin, le surintendant Nicolas Fouquet. La Fontaine va offrir à Fouquet son poème Adonis, superbement calligraphié, illustré, et le surintendant, qui est un amoureux des arts, apprécie beaucoup. Vous savez, Fouquet a ce flair incomparable qui lui permet de deviner les grands, de pressentir les grands génies, les grands artistes de son temps. Et il a repéré tout de suite La Fontaine, il l'intègre à l'équipe idéale qu'il est en train de constituer à Vaux, et La Fontaine, on peut dire à ce moment-là, est presque lancée. D'ailleurs, il fraternise avec un autre jeune parent de sa femme, lui aussi poète en devenir, Jean Racine. C'est quand même, entre nous, une fascinante époque que cette période où Racine, La Fontaine, bientôt Perrault, Madeleine de Scudéry, d'autres légendes littéraires se connaissent, se fréquentent, s'encouragent mutuellement. Disons-le, la vie que La Fontaine peut mener à Vaux, une vie qu'il mène grâce aux largesses de Fouquet, n'est pas éloignée de l'idéal parnassien, si j'ose dire, auquel il aspirait. Si tant est que La Fontaine n'ait jamais aspiré à autre chose qu'à jouir pleinement et lucidement de l'air du temps. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? Et à la fin de l'été 1661, Louis XIV fait arrêter Fouquet. Alors là, pour les protégés du surintendant, on peut dire que c'est une vraie catastrophe. La Fontaine, sans aller jusqu'à la signer du reste, publie une élégie aux nymphes de Vaux qui s'apitoie sur le sort de l'accusé. Ça, c'est le meilleur moyen de se rendre odieux au roi et au nouvel homme fort, à Colbert. Le poète ira jusqu'à adresser en vain, naturellement, une ode au roi pleine de sollicitude pour Nicolas Fouquet. Vous voyez qu'il ne manque pas de courage, La Fontaine, à moins qu'il ne s'agisse d'inconscience. En attendant, c'est tout un clan qui sombre. L'oncle Jeannard est exilé à Limoges, autant dire limogé au sens propre, et La Fontaine l'accompagne. C'est un long, un pénible voyage que Jean, fidèle à son habitude, prend du bon côté et qu'il raconte avec beaucoup d'esprit dans les lettres à sa femme. C'est au cours de ce voyage qu'il va fréquenter, entre autres, à Bellac, une petite servante d'auberge, ce qui permettra 2 siècles et demi plus tard à un certain Jean Giraudoux de s'imaginer une filiation avec le poète. Giraudoux, il faut le savoir, nourrissait une passion pour La Fontaine, passion qui transpire dans 5 magnifiques conférences qu'il a prononcées à son sujet. Alors La Fontaine finit par rentrer à Château-Thierry. Il est introduit chez la nouvelle châtelaine, qui est la duchesse de Bouillon, une nièce de Mazarin, qui lui décroche une charge de gentilhomme servant au palais du Luxembourg chez la duchesse douairière d'Orléans. On peut dire que pour La Fontaine, c'est le moment d'une nouvelle faveur, ce qui va lui permettre cette fois de se séparer vraiment de sa femme. Elle retourne vivre à Château-Thierry, tandis que lui court les salons, publie les pièces de vers dont ses malles sont pleines. En 1665, 1666, 71 paraîtront les contes et nouvelles en vers de Monsieur de La Fontaine. Et surtout, nous y voilà, en 1668 paraît le premier volume des fables choisies, mises en vers par Monsieur de La Fontaine. Elles sont dédiées au tout jeune dauphin, fils unique de Louis XIV, ce dauphin dont nous parlerons dans 15 jours du reste à l'occasion du 350e anniversaire de sa naissance. Ça y est, les premières fables sont publiées. On peut dire qu'elles sont 124, réunies en 6 livres. C'est d'emblée un véritable succès. Jean de La Fontaine peut sortir du relatif anonymat où il se trouvait jusqu'ici. Si très bien, on peut dire qu'il vient d'entrer dans l'histoire de la littérature.
De trompette, un bal et au bois de Jean-Baptiste Lully. Restez avec nous sur Europe 1. Retrouve Franck dans un court instant. Il nous retrace aujourd'hui le parcours de Jean de La Fontaine.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et le plus connu des écrivains français est à l'honneur sur Europe 1. Franck nous relate la vie de Jean de La Fontaine.
Jean de La Fontaine, dont les fables viennent d'être publiées, en tout cas le premier tome, on est en 1668. Alors, toutes les fables, loin de là, ne mettent pas en scène des animaux. On a toujours cette image, nous. Ce sont les animaux qui donnent la tonalité. La fourmi, la grenouille, maître renard, le pigeon, le loup, l'âne, le lion, le rat, la mi-bouc, le héron au long bec, emmanché d'un long cou. Tout ça fait ressortir ce qui peut y avoir, en vérité, d'irréductiblement bestial dans l'être humain. C'est ça que cherche La Fontaine. On a beaucoup fait de reproches aux poètes sur l'inspiration de ces fables. Le grand naturaliste Fabre s'est amusé à relever une infinité d'erreurs commises par le fabuliste à propos des animaux qu'il met en scène. Par exemple, pour prendre la fable la plus célèbre, la cigale et la fourmi, Fabre nous dit « La fourmi n'a jamais consommé de grains et en a encore moins entassé. Quant à la cigale, elle ne survit jamais à l'été, etc. » Mais La Fontaine, encore une fois, ne prend ses masques d'animaux que pour nous parler d'affaires très humaines. Plus fondamentalement, de nombreux pédagogues, et Jean-Jacques Rousseau le premier, ont dénoncé le cynisme des fables de La Fontaine. Je cite Jean-Jacques Rousseau. « On fait apprendre les fables de La Fontaine à tous les enfants, et il n'y en a pas un seul qui les entende, ce qui à l'époque voulait dire « comprenne ». Quand ils les entendraient, ce serait encore pis, car la morale en est tellement mêlée et si disproportionnée à leur âge qu'elle les porterait plus au vice qu'à la vertu, nous dit-il. Cela ramène, estime Émile Henriot, cela ramène à la vieille question de la morale de La Fontaine qui passe pour n'avoir proposé en exemple que la ruse, la force, la cruauté triomphante. Je crois plutôt, dit Émile Henriot, qu'il les a dénoncés et que toute l'erreur provient d'avoir donné les fables à lire aux enfants qui ne comprennent pas leur ironie. Je reviens un instant à Rousseau. Composons, écrit Jean-Jacques Rousseau, composons, monsieur de La Fontaine, je promets quant à moi de vous lire avec choix, de vous aimer, de m'instruire dans vos fables, car j'espère ne pas me tromper sur leur objet, mais pour mon élève, permettez que je ne lui en laisse pas étudier une seule jusqu'à ce que vous m'ayez prouvé qu'il est bon pour lui d'apprendre des choses dont il ne comprendra pas le quart, que dans celles qu'il pourra comprendre, il ne prendra jamais le change, et qu'au lieu de se corriger sur la dupe, il ne se formera pas sur le fripon. Comme cela est bien dit. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le premier public des fables de La Fontaine les apprécie tout de suite. La Rochefoucauld, Madame de Sévigné, de nombreux contemporains font des éloges de ces petites histoires divinement versifiées, inspirées d'Ésope. Et quelques années plus tard, un second recueil, dédié cette fois à Madame de Montespan, ne suffira pas à faire évoluer la prévention du roi de Colbert, qui reste attaché à l'idée que La Fontaine était favorable à Fouquet. Pour eux, il reste une sorte de personnages dangereux. D'ailleurs, Colbert se plaint du manque d'application de La Fontaine dans sa charge de maître des eaux et forêts, et en 1672, le poète sera conduit à s'en défaire, quitte à vivre au crochet de sa bienfaitrice, Madame de la Sablière, celle que Madame de Sévigny appelait la Tourterelle. On ne dira jamais assez tout ce que notre bonhomme va devoir à Madame de la Sablière. Beaucoup plus tard, alors qu'elle aura été abandonnée par son amant Lafare et qu'elle se sera convertie à la plus austère dévotion, Madame de la Sablière dira « Oh, j'ai renvoyé tout mon monde, je n'ai gardé que mon chien, mon chat et La Fontaine ». À la mort de Madame de la Sablière, La Fontaine va devoir trouver une autre protectrice en la personne de Madame d'Hervart. Madame d'Hervart est épouse d'un célèbre conseiller au Parlement, lui-même fils de banquier. Et c'est là que La Fontaine, c'est chez ces gens que La Fontaine va passer les dernières années de sa vie. Mais nous n'en sommes pas là. Après le succès des premières fables, le poète s'essaie au livret d'opéra. On entendait quelques notes de Lully tout à l'heure, c'est avec Lully qu'il travaille, mais sans succès. Puis il donne ses nouveaux contes, qui sont bien plus licencieux que les précédents, et qui mettent en scène des religieuses, des moines. Tout ça fait que le recueil est interdit par la censure royale. La Fontaine se trouve à ce moment-là très endetté. Il est obligé de vendre sa jolie maison natale à Château-Thierry. En 1683, la mort de Colbert lui offre quand même une éclaircie. Et d'ailleurs, il sera élu au 24e fauteuil de l'Académie française, celui de Colbert. Jean doit à ce moment-là se faire violence et aller remercier le roi qui finalement, après beaucoup d'hésitation, l'a laissé entrer à l'académie. Alors il se rend à Versailles, il arrive devant le monarque, il fait ses révérences, il met la main à sa poche pour en extraire un feuillet sur lequel est écrit le très beau compliment qu'il a prévu de lire. Seulement, il palpe ses poches, ses manches et il s'aperçoit horrifié qu'il a tout oublié. « Ah, sire, quelle étourderie !»« Monsieur de La Fontaine, ce sera pour une autre fois !» lâche Louis XIV cassant. Le dernier recueil des fables en 1692 n'en sera pas moins dédié au duc de Bourgogne, le petit-fils aîné de Sa Majesté. À cette époque, le fabuliste est déjà très malade et son confesseur, l'abbé Pouget, obtient qu'il renie publiquement ses contes, des contes jugés infâmes par cet homme d'église. Le bonhomme se laisse faire, c'est un des mystères de la fin de sa vie. Oh, il faut dire qu'il n'a jamais été d'un naturel bien contrariant. Il écrivait dans le songe d'un habitant du Mogol « Quand le moment viendra d'aller trouver les morts, j'aurai vécu sans soin et mourrai sans remords. » Ce moment viendra le 13 avril 1695. C'est donc chez les Hervart qui hébergeaient La Fontaine que notre bonhomme rend son âme dans des circonstances, nous allons le voir, qui restent aujourd'hui encore assez difficilement explicables.
L'ouverture des amants magnifiques de Jean-Baptiste Lully sur Europe 1, Franck.
Et nous sommes en compagnie de Jean-Claude Drouot, le célèbre comédien. Évidemment, un certain nombre d'entre vous, un certain nombre de nos auditeurs n'ont pas oublié Thierry Lafronde. Mais Dieu sait que Jean-Claude Drouot, vous avez fait bien, bien d'autres choses depuis. Je vous écoutais l'autre soir à l'Assemblée nationale lire notamment des discours de Victor Hugo. C'était somptueux. Et vous vous intéressez de près à La Fontaine, et notamment à l'aspect le plus libre et libertin du personnage.
Libre et libertin.
Vous jouez d'ailleurs vous-même un spectacle qui porte ce nom.
C'est un travail que j'ai fait en privilégiant justement cet aspect très méconnu de La Fontaine que sont les contes. Je trouve un peu navrant que, évidemment, La Fontaine, au travers quelques-unes de ses fables animalières, est très connue, très identifiée, disons. Mais on semble s'en contenter.
Oui, voilà. Et non seulement on semble s'en contenter, mais on renvoie volontiers La Fontaine et tout son attirail d'animaux parlants aux écoles et aux enfants. On considère quasiment que c'est de la littérature enfantine. Ce que ce n'est pas du tout. Je parle même des fables elles-mêmes qui sont loin d'être des travaux pour enfants. Mais alors, pour ce qui est des contes, alors là, évidemment, on s'éloigne beaucoup de l'enfance.
Oui, alors les contes qui sont... J'ai chez moi une édition... dont le titre est « L'enfer des classiques ». Et j'ai eu la surprise un jour de découvrir que l'un des contes, qui s'appelle d'ailleurs « L'anneau » de Hans Carvel, qui est l'Est, à la manière d'une grivoiserie de Monsieur Rabelais, eh bien, j'ai eu la surprise de voir que La Fontaine était évidemment à l'index de l'Église, et puis avec Baudelaire, Les Fleurs du Mal, etc., et quelques autres, étaient cantonnés dans cette sorte de prison, d'interdit de lecture.
Ça. C'est ce La Fontaine, si vous le voulez bien, Jean-Claude Drouot, ce La Fontaine un peu sulfureux que nous allons essayer de découvrir dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues.
Dans l'eau de la claire fontaine, Georges Brassens sur Europe 1. Je vous rappelle que c'est une journée spéciale. La station rend hommage au chanteur pour les 30 ans de sa mort. Et la journée Brassens est aussi sur notre site internet avec une heure d'archives pour retrouver Georges Brassens dans les émissions et au micro d'Europe 1. Et c'est à écouter sur Europe 1.fr.
Vous savez, Julia, que Brassens adorait littéralement La Fontaine. D'ailleurs, aux éditions de L'Épervier, l'année dernière, est paru un petit recueil de fables et de chansons satiriques et rebelles. Les fables de La Fontaine et les chansons de Brassens, bien entendu. On les a mêlés dans ce joli petit recueil aux éditions de L'Épervier. Ça s'appelle tout simplement La Fontaine et Brassens. Or, ça nous sert de préambule à ce chapitre très intéressant de la vie de La Fontaine, qui est tout l'aspect rebelle du personnage. D'abord, il faut dire que à chaque fois qu'il s'attache à une personnalité, que ce soit le surintendant Fouquet, que ce soit la duchesse de Bouillon, que ce soit plus tard la princesse de Conti, à chaque fois, ce sont des gens qui sont en difficulté avec le pouvoir. Louis XIV et accessoirement Colbert se méfient beaucoup de La Fontaine. Il n'entre qu'à grande difficulté à l'Académie française. Et à partir du moment où il entre à l'Académie, le roi lui demande de rester sage. Parce que sage, Jean-Claude Drouot, il ne l'a pas toujours été.
Oui, moi, ce qui me touche quand on parle du La Fontaine homme libre, c'est un homme de fidélité. Dangereux, je ne sais pas s'il l'était, mais je crois qu'il était... Louis XIV était jaloux. Jaloux de l'amitié et de la fidélité que La Fontaine a porté, malgré les déboires de Nicolas Fouquet et son emprisonnement à vie, eh bien, il lui restait fidèle, obstinément. Vous en avez parlé tout à l'heure.
Inconsciemment, peut-être aussi, avec une certaine dose d'inconscience.
Non.
Vous pensez que c'était tout à fait
volontaire ? Oui, ce n'est pas un calcul. C'est un homme de fidélité. Et il est resté fidèle à cet homme qui, en effet, avait autour de lui, à Vaux-le-Vicomte, inviter le Brun, le Nôtre, le Vaux, enfin grands bâtisseurs de Versailles que Louis XIV. D'ailleurs, la révocation en 1661, au mois d'août 61, après la grande fête que Fouquet a donnée au roi, etc., quelques semaines après, il a été arrêté, etc. Bon, moi, cet aspect-là de fidélité, moi, me touche beaucoup. Et m'a mis sur la trace, justement, de cet homme libre, évidemment. C'est un marginal.
Oui, c'est quelqu'un qui s'inscrit très difficilement dans un cursus, dans une carrière, etc. On l'a vu pendant ses études, il n'a pas d'ambition. Il a très peu, on dirait aujourd'hui, pour employer des termes modernes, qu'il a très peu d'ego, La Fontaine, en fait. Il est en prise directe avec cette nature, avec ses esprits naturels qu'il met si bien en scène dans les fables. Les fables sont d'ailleurs truffées d'allusions à peine voilées à la vie mondaine et à la vie de cour, qu'il critique de façon relativement acerbe. Il va encore plus loin dans le soufre, puisque mauvais mari et mauvais père, libertin assumé, il l'est aussi dans ses textes à travers un certain nombre de contes licencieux.
Oui, mais libertin assumé, en fait, il disait préférer une grisette est un trésor, disait-il. Car sans se donner de la peine et sans qu'au bal on la promène, on en vient aisément à bout, on lui dit ce qu'on veut, bien souvent, rien du tout. Le charme des chansons de Brassens, avec cette malice constante, cette délicatesse comme ça, eh bien, c'est en effet celui qu'on retrouve dans les contes, ils sont jamais crus, ils sont allusifs constamment. C'est un vrai bonheur, c'est de la musique, c'est de la finesse, c'est une finesse d'expression, une intelligence constante et pour moi qui l'ai dit assez régulièrement, c'est un bonheur de musicien que j'éprouve.
Tout est très allusif, tout est très effleuré, oui. Finalement, hein, avec beaucoup d'humour aussi.
Ah mais l'humour est constant, mais il y a une délicatesse comme ça, une empreinte tout à fait voilée, magnifique.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le comédien Jean-Claude Drouot nous fait partager sa passion pour Jean de La Fontaine sur Europe 1, Franck.
Et c'est une passion qui ne s'arrête pas aux fables, même si les fables, évidemment, sont très importantes. Un mot d'ailleurs, Julia, à ce propos, vous savez qu'au scriptorial d'Avranches, au musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel, dont nous parlons de temps en temps, a lieu une exposition qui a été inaugurée la semaine dernière et qui durera jusqu'au 31 décembre et qui s'appelle Fables de La Fontaine, illustrations d'hier et d'aujourd'hui. C'est une très belle exposition et qui n'intéressera pas une fois plus que les petits. Donc à côté de ces fables, Jean-Claude Drouot, il y a les contes qui occupent une part importante. Quelle était l'intention de La Fontaine lorsqu'il écrivait ses nouvelles, ses contes, plus ou moins licencieux, de plus en plus licencieux, dirais-je ?
Oui, il écrit quelque part « On m'engage à conter d'une manière honnête le sujet d'un de ses tableaux sur lequel on met des rideaux. Alors il me faut tirer de ma tête nombre de traits nouveaux, piquants et délicats, qui disent et ne disent pas, et qui soient entendus sans note des Agnès, même les plus sottes. Bon, ce n'est pas couché gros, ces extrêmes Agnès sont oiseaux qu'on ne vit jamais. Ce principe posé, pourquoi plus de scrupules, pourquoi moins de licence aux oreilles qu'aux yeux? Puisqu'on le veut ainsi, je ferai de mon mieux. Nul trait à découvert n'auront ici de place. Tout y sera voilé, mais de gaz, et si bien que je crois qu'on n'en perdra rien. Qui pense finement et s'exprime avec grâce, fait tout passer, car tout passe, je l'ai 100 fois éprouvé. Quand le mot est bien trouvé, le sexe, en sa faveur, à la chose pardonne, ce n'est plus elle, alors s'étonne encore. Pourtant, vous ne faites rougir personne et tout le monde vous entend. Soyez amant, vous serez inventif. Tour ni détour, ruse ni stratagème ne vous faudront. Le plus jeune apprentif est vieux routier dès le moment qu'il aime.
Magnifique, merci beaucoup Jean-Claude Drouot, on avait l'impression de l'entendre notre bonhomme La Fontaine. Il y a un moyen aussi de se rapprocher de lui, c'est d'aller en Champagne, c'est de se rendre à Château-Thierry dans cette maison qui a été celle de sa famille et qui aujourd'hui est le musée Jean de La Fontaine. Nous avons justement en ligne Christiane Sinigas qui est conservateur en chef du musée Jean de La Fontaine. Bonjour Christiane Sinigas.
Bonjour Franck Ferrand.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors il faut donner une idée de cette très jolie maison de pierre blonde avec du côté de la cour ses pilastres, cette corniche magnifique, un très joli perron à double révolution et puis derrière un jardin un peu genre jardin de curé comme ça. Vous venez de la restaurer cette belle maison?
Oui, tout à fait. Comme vous l'avez très bien expliqué, La Fontaine est universelle, mais La Fontaine a toujours sa maison qui est son hôtel particulier familial à Château-Thierry et qui vient de trouver une seconde naissance puisque effectivement cette maison qui est Musée de France, maison d'écrivain, vient d'être restaurée au bout de 3 ans avec bien sûr en tant que monument historique. Et cette maison musée...
Elle fait partie maintenant de la série Maison des Illustres, en fait. Hein.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une initiative du ministre de la Culture qui a créé ce label Maison des Illustres qui répertorie et dessine un réseau sur toute la France de lieux de mémoire dont le musée Jean de La Fontaine est un jalon pour la Picardie. Et ce musée propose, bien sûr, comme tous les musées de France, les collections autour de La Fontaine, beaux-arts, mais aussi écriture, manuscrits, et ancrés à la fois dans le passé et dans le présent, puisque nous avons régulièrement des expositions qui rappellent à quel point La Fontaine est toujours actuelle.
Vous en avez une en ce moment, une exposition?
Alors, nous allons ouvrir une exposition en novembre de sculptures de Nicolas Quénette. Et puis, nous avons également ensuite une présentation de reliures d'art, puisque là encore, c'est le côté universel de La Fontaine. Il a été le thème choisi par la Biennale de la reliure d'art, et le premier prix, c'est une japonaise, par exemple. Donc, il y a des relieurs d'art du monde entier qui ont illustré les fables de La Fontaine au Brésil, en Espagne. C'est tout à fait exceptionnel.
Ce que l'on peut faire, Christiane Sinigas, oui. Parce que malheureusement, le temps tourne, c'est recommander à nos auditeurs, dès qu'ils mettent un pied en Champagne, d'aller à Château-Thierry, d'aller visiter cette belle maison que vous entretenez avec amour. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Il y a un mot que j'aimerais qu'on dise quand même, je sais qu'on est vraiment tout au fait au bout, Jean-Claude Drault, mais c'est les circonstances de la mort de La Fontaine. On se rend compte quand il meurt, on se rend compte qu'il avait des cilices sur lui, qu'il faisait amende honorable, qu'il était en train de
la discipline. Oui, c'est tout à fait étonnant. Même son ami dont vous avez parlé tout à l'heure, Maucroix, qui est un ami de plus de 50 ans, ne savait pas, ignorait cette pénitence que La Fontaine. L'abbé Pouget, vous en avez parlé tout à l'heure, l'a persuadé que ses comptes, 2 ans avant sa mort, c'était en 1692-13...
Que ses comptes n'étaient vraiment pas acceptables.
Il était malade, donc vulnérable, et donc il a été rendu attentif aux reproches et aux recommandations de l'abbé Pouget, et il a fait venir des membres de l'académie, et c'est un épisode très navrant, où il se repent. Et il dit qu'il parle de ses contes, disant mais c'était j'écris des contes infâmes, c'est pas bien,
c'est
pas
bien. C'est dommage qu'il soit mort avec cette impression-là.
La pression, il y a Madame de Maintenon et puis tout l'esprit de reprise en main de l'Église.
Ouais, l'esprit de l'époque, malheureusement.
Oui, et La Fontaine avait peur de mourir, de la mort.
Nous retrouvons Georges Brassens, c'est la journée sur Europe 1.
Comme je fais pas beaucoup de radio, sauf quand on me met de force un micro sous le nez.
Europe 1, le temps ne fait rien à l'affaire.
En fait, je sais pas tellement ce qui s'y passe.
30 ans après sa disparition, Europe 1 rend hommage à Georges Brassens.
Depuis l'âge de 9-10 ans, c'était déterminé, ça. Je ne pouvais que finir dans la chanson.
Georges Brassens et la religion.
J'ai ce malheur de ne pas croire en Dieu. Mais comme j'en parle, étant donné que j'ai quand même été élevé dans cet esprit et que même ceux qui ne croient pas en Dieu, les athées, Dieu finit quand même par avoir de l'importance pour tout le monde, même pour les non-croyants. Je parle aussi beaucoup de Dieu dans la... Si vous voulez, je le cherche un peu dans mes chansons.
Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu?
Je le cherche un peu, j'espère s'il existe quand même, qu'un de ces jours il ne va pas tarder à me faire signe, parce que c'est long.
Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-haut si j'y suis.
Mon poète préféré, c'est quand même le Christ. Si l'on trouve dans mes chansons, dans mes lignes, des quelque chose de mystique, cela provient de ce que j'ai. Je me suis nourri de ce fameux poète.
Les bonnes âmes d'ici bas, compte ferme qu'à mon trépas, Satan va venir embrocher ce mort mal embouché. Mais
alors, il est possible que j'ai apporté ma quote-part à la lecture de l'Évangile.
Europe 1 et Georges Brassens, l'histoire d'amour continue.
Je ne sais pas si
vous entendez.
Merci infiniment à Jean-Claude Drouot d'être venu nous parler de La Fontaine et le faire parler par sa voix. Le visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt avec Francis Lalanne, c'est en tournée en ce moment dans toute la France. Hein. Ça se joue jusqu'au mois de janvier prochain. Oui. Très belle pièce, Le visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt.
Magnifique.
Merci beaucoup Jean-Claude Drouot.
Merci à vous.
Et à demain. Julia.
Merci Franck. À demain. À suivre Elena Morna et les experts Europe 1 qui vous donnent des clés aujourd'hui pour optimiser les petits espaces.
Europe 1 vous présente Parole de l'ombre 2.
Retrouvez la grande histoire des Français sous l'occupation.
Affiches, chansons, tracts, poèmes, journaux clandestins sont reproduits à l'identique.
Tournez les pages et dépliez ces archives bouleversantes pour plonger dans l'histoire.
Parole de l'ombre 2.
En librairie pour 34,80€ seulement.